Michel Potvin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal, est avec nous pour sa chronique économie un petit peu plus tôt aujourd'hui. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Alors aujourd'hui, les prix de l'essence, flambée des prix de l'essence.
Oui, probablement que tous les automobilistes l'ont remarqué à la pompe depuis quelques jours. Les prix sont très élevés. Ce matin, je voyais 1,88,9 pour chaque litre d'essence.
Oui, on s'approche du 2 $, hein?
On s'approche du 2 $. Puis j'ai regardé, j'ai fait des petits calculs pour vous. Je regardais le prix de l'essence depuis soit 1990 ou 2000, a augmenté un peu plus vite que l'inflation. Donc, l'inflation, l'indice des prix a été multiplié un peu plus que par 2 depuis 90. Le prix de l'essence, c'est plus fois 2,47. Donc, c'est un peu plus vite. Puis, on a à peu près le même phénomène depuis 2000. Donc maintenant, c'est très élevé, mais je veux dire, c'est quelque chose, c'est pas juste un événement. Quoique là, on a quelque chose, un petit pic, là. Ce que je voulais, par contre, mettre... illustrer aussi, c'est que on a des prix élevés, mais dans les dernières années, on a connu des prix encore plus élevés en dollars d'aujourd'hui. Alors, à l'époque, peut-être que le prix du litre d'essence semblait un peu plus faible, mais quand on ajuste pour l'inflation, on a eu des périodes où c'était plus élevé. Pendant la crise financière, là, à l'été 2008, le prix du litre en dollars d'aujourd'hui est à 2,5. Aujourd'hui, on est à 1,88, donc 2 ou 17 cents de plus. Février 2013, là, c'était un peu durant le printemps arabe, il y avait des tensions au Moyen-Orient, le prix du baril de pétrole a augmenté, puis on a eu un prix de 1,97, toujours en dollars d'aujourd'hui, donc légèrement plus élevé qu'aujourd'hui. Puis enfin, peut-être le pire, c'était à l'été 2022, dans la foulée du début de la guerre en Ukraine, là, si on se souvient, il y a eu des crises énergétiques, notamment en Europe, mais ça nous avait touchés aussi. Et donc, au mois de juin, le prix à la pompe en dollars d'aujourd'hui a atteint le 2,37 $, ce qui est pas mal plus élevé qu'aujourd'hui. Mm-hmm. Ce qui arrive, c'est que le prix de l'essence dépend du prix du baril de pétrole. Puis le pétrole, il y a beaucoup de pétrole qui se situe au Moyen-Orient, qui est malheureusement une poudrière là, sur la planète. Il y a beaucoup de conflits. Puis aussi, on en retrouve en Russie. Alors, à chaque fois qu'il y a des conflits ou des tensions géopolitiques dans ces régions-là, le prix du baril de pétrole a tendance à augmenter. Puis nous, on voit les effets là, lorsqu'on va mettre de l'essence dans notre voiture.
Oui. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes, on les voit dans les reportages là, qui sont mécontentes, inquiètes. Qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est une bonne question. Peut-être avant de dire ce que moi, je pense qu'on peut faire, je peux regarder certaines solutions là qui auraient été avancées ou propositions avancées par d'autres.
Laisse ton char dans le garage.
Oui, ça, c'est bon, on va y arriver. Mais il y en a qui ont dit qu'on pourrait limiter la marge des détaillants. La marge des détaillants, c'est quelque chose qui est publié par l'Office de l'énergie là, au Québec. On regarde les prix, puis on infère la marge des détaillants. Mais c'est pas facile à faire puis à calculer. Donc, les calculs sont souvent imparfaits. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas vraiment les détaillants qui bénéficient des prix élevés. Quand le prix augmente comme ça, c'est pas le détaillant qui s'en met le plus dans les poches, c'est plutôt les producteurs. Là. Eux, le pétrole qu'ils vont chercher dans le sol, tout d'un coup, il vaut plus cher et puis leurs coûts de production n'ont pas nécessairement augmenté. Là. Si je mets à part pour certains là, qui doivent passer par le détroit d'Ormuz là, pour le transport, mais les coûts de production ne changent pas beaucoup, mais tout d'un coup, ils peuvent vendre leur baril 30%, 40% plus cher. Donc, c'est plus eux qui s'en mettent dans les poches que les détaillants. Donc, taper sur les détaillants ou essayer de limiter leur marge de manœuvre, je pense pas que ça soit une bonne idée. Est-ce qu'on pourrait limiter le profit des producteurs? Ça peut sembler une autre bonne idée, mais c'est qui les producteurs? Ce sont des grosses firmes internationales. Comment limiter leur profit? Si jamais même si on trouvait un moyen, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? On va dire, c'est pas payant de vendre au Québec ou au Canada, on va aller vendre ailleurs. Il y a de la demande pour le pétrole ailleurs. Donc ça, c'est pas, je pense pas que ce soit une solution viable non plus. On a parlé de réglementer le prix à la pompe, peut-être mettre une fourchette, un prix maximal. C'est pas facile, ça non plus. Il faut essayer de trouver le bon prix. Puis si le prix qu'on met est trop bas, qu'est-ce qui va arriver? Des détaillants, ils ne trouveront pas leur compte parce que même si on limite le prix à la pompe, le prix du baril de pétrole, lui, il reste le même. Donc les raffineries payent ce prix-là, puis les raffineries, pour rentrer dans leur argent, bien, vendent l'essence aux détaillants à un prix qui leur permet d'être viable, qui permet aux raffineries d'être viables. Donc, les détaillants, ils font face à des coûts plus élevés. Si le prix est trop bas, ils vont fermer, puis là, on va avoir des pénuries puis des files d'attente. Donc, je ne pense pas que ça soit une solution non plus.
Bon, alors sinon, qu'est-ce qu'on peut faire?
Bon, peut-être que vous n'aimerez pas ou des consommateurs n'aimeront pas la solution, mais je pense que en gros, rien, certainement sur le prix de l'essence. Pourquoi? Quand le prix augmente, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens vont tenter de s'adapter. Quand vous disiez tout à l'heure, rester chez soi, bien c'est ça, ça, c'en est une solution. On peut faire plus de télétravail. Puis on est mieux équipé pour faire du télétravail qu'on l'était il y a peut-être 10 ou 15 ans. On a eu la COVID, on sait ce que c'est. Donc, il y a moyen peut-être pour certains de dire, bien, je vais rester plus souvent à la maison, je vais moins prendre la voiture. On pourrait aussi, il faut aller au travail, peut-être ça va inciter, favoriser des initiatives de covoiturage ou encore se tourner vers notre bon vieux transport en commun. Ouais.
Ou la faire rouler moins longtemps aussi, hein?
Exactement. Ou moins vite, je dirais. Là. Promenez-vous ces autoroutes. Oui. On sait qu'il y a une grosse différence de consommation où il y a 90, 95 versus 120. Puis quand on va sur les autoroutes, à 95, c'est sûr qu'on dépasse personne.
Mm-hmm. Alors, on a plus de pouvoir qu'on pense, finalement.
Exactement. Puis les prix sont là pour inciter les gens à trouver des solutions. Là. Si on limitait, si on plafonnait les prix, bien, les gens ne seraient pas incités à chercher des solutions alternatives. Puis ce qui arrive quand les prix sont élevés, c'est ceux qui ont des solutions de rechange, entre guillemets, relativement faciles, ce sont eux qui vont s'adapter. Puis ceux pour qui c'est très difficile de s'adapter, bien, ils vont payer un prix plus élevé, mais ils ne se font pas, entre guillemets, prendre l'essence par ceux pour qui c'est facile de s'adapter. Donc, si on réglemente les prix puis il y a des files d'attente, on n'aura pas ce résultat-là. Là. En général, on veut que ceux pour qui c'est facile de s'adapter, on voudrait que ce soit eux qui s'adaptent. Et puis la façon de le faire, bien, c'est de maintenir les prix au niveau où ils sont. Le prix, c'est un signal de rareté. Quand le prix augmente, ça nous dit « Hop, là, l'essence est rare ». Puis là, les gens qui sont capables de se passer, entre guillemets, de l'essence, bien, c'est eux qui vont s'ajuster. Donc, les prix élevés, ça permet de canaliser l'essence vers ceux qui la valorisent le plus ou ceux qui ont moins de solutions de rechange qui peuvent mettre en œuvre.
Oui. Alors, ce seront les plus fortunés qui vont pouvoir en profiter?
Bien, c'est un argument qu'on avance souvent. Là. On dit, OK, bien là, si on laisse les prix, c'est toujours les riches qui en bénéficient. Oui et non. Oui, effectivement, ceux qui ont plus les moyens vont peut-être en bénéficier. Mais peut-être non, parce que ça se peut qu'il y a des gens fortunés qui aient des alternatives viables, puis qu'eux décident de prendre moins d'essence. Puis si on ne laissait pas les prix augmenter, supposons qu'on plafonnait les prix, oui, on peut aider les gens moins fortunés, mais on aide aussi les gens plus fortunés, parce que tout le monde va payer le prix moins cher. Donc, c'est pas, je pense pas que ça soit la bonne solution. Là. À chaque fois qu'on rentre des questions de distribution de revenus, les plus versus les moins fortunés. En général, ce n'est pas une bonne idée d'agir par les prix, parce que quand on agit par les prix, comme ici le prix de l'essence, si on le maintient artificiellement en bas, bien, tout le monde en profite, là, pas juste ceux qu'on veut aider. Alors, ce n'est pas une bonne idée de redistribuer, entre guillemets, la richesse là, ou d'aider les moins fortunés en jouant sur les prix. J'aimerais mieux des politiques plus ciblées si on va aller de ce côté-là, par exemple, augmenter le crédit pour la TPS, qui ça, il est ciblé vraiment vers les moins fortunés, ou le crédit de solidarité. Donc, en augmentant ces crédits-là, on aide les gens qu'on veut aider, mm-hmm. puis ceux qui ont les moyens de payer de l'essence le prix plus cher, puis qui veulent acheter de l'essence, bien, eux, ils vont payer.
Donc, selon vous, Michel, le gouvernement ne devrait pas intervenir sur le prix?
Non, il ne devrait pas intervenir sur le prix, puis peut-être trouver, s'il veut intervenir, trouver des façons qui jouent sur le revenu des gens, des moins fortunés, comme je le disais, soit le crédit solidarité ou le crédit TPS.
Parfait. Ben merci beaucoup pour cette chronique très intéressante. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine à compter de 10 heures. En studio peut-être, qui sait. À la semaine prochaine.
Oui. Au revoir.